Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà cette chanson qui est le grand tube de Charles Aznavour pour conclure ce récit que j'ai essentiellement tiré du livre « Vie et légende » de Charles Aznavour, écrit par Robert Bellerey, qui est là avec moi, recoupé, mais vous le faites vous-même, en fait, avec les autobiographies de Charles Aznavour. Combien y a-t-il eu, d'ailleurs, d'autobiographies de Charles Aznavour,
Robert ? Je crois qu'il a dû pondre 6 ou 7 livres.
Qui se contredisent.
Qui se contredisent souvent. Le premier, il n'a pas tenu la plume, il l'a avoué très honnêtement.
Et il
l'a fait
écrire par
quelqu'un. C'était Jean Nolly qui tenait la plume et qui brodait, qui racontait tout son contraire.
Donc, on s'aperçoit, vous êtes aperçu en vous penchant sur sa vie, qu'en fait, il a bâti une légende lui-même.
Oui.
Il a inventé des trucs.
À mon avis, là, il était bonne école avec Édith Piaf, qui était la reine de la
mythomanie.
Absolument. Piaf, née sur le trottoir, c'est pas vrai. Elle est née dans une clinique. Piaf, aveugle pendant 4 ans, c'est pas vrai. Elle a laissé dire, c'est pas forcément elle qui a inventé, elle a laissé dire, et puis ça gonfle et ça fait des trucs. Et Aznavour, c'est un peu ça. C'est-à-dire, par exemple, sur le nombre de chansons, on dit maintenant couramment...
L'homme aux 1000 chansons.
1000 chansons, 1300, puis lui dit non, 1400, puis demain il y en aura 1401 parce que j'en ai... Bon, moi j'ai fait un compte précis d'apothicaire, c'est quelque chose comme 600. C'est déjà énorme, c'est déjà prodigieux parce que il y a pas beaucoup de déchets là-dedans, c'est formidable. Alors pourquoi doubler le chiffre? Donc il y a ça, il y a de l'exagération qui est assez drôle finalement.
Alors je veux qu'on revienne sur le tout début parce que j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il ne sache pas grand-chose. Moi je pensais qu'il savait tout. De la venue de ses parents arméniens. En fait, arménien, ça ne voulait rien dire à l'époque. Il n'y avait pas de pays qui s'appelait l'Arménie. Ils étaient turcs. Enfin, sa mère était turque et son père était russe en vérité. Il était géorgien, mais la Géorgie était à l'époque dominée par la Russie. Donc, son père était turc. Sa mère était turque. Son père géorgien. Et il ne sait pas pourquoi ils sont arrivés en France.
Oui, c'est troublant, mais c'est souvent le cas. On en sait des fois plus sur des étrangers que sur ses propres parents ou grands-parents. Je crois qu'on est tous un peu là. Et par exemple, il ne savait pas où il s'était marié. Il l'a répété 50 fois et on n'en parlait pas, etc. Et moi, là, j'ai eu une chance dingue. J'ai retrouvé la trace du lieu et de la date du mariage de ses parents.
Où ça ?
Ils sont mariés en 1922. Et ce qui est très curieux, c'est
en Turquie ?
Oui, à Smyrne. Non, c'est à l'époque, c'est sous administration grecque, mais c'est une petite enclave au milieu de la Turquie. Ça s'est très mal fini un an après dans un bain de sang, 10 000 morts. Mais ils étaient là. Alors, est-ce qu'ils étaient réfugiés ?
Est-ce qu'ils ont fui le génocide d'une manière ou d'une autre ? Ils arrivent en France 7-8 ans après.
Indirectement. Le père, non, parce qu'en Russie, il n'y a pas eu de génocide. Et sa mère, oui, la mère d'Aznavour, ça, j'ai retrouvé, hélas, aucune trace. Et lui non plus. Toute sa famille, elle a disparu. Donc, elle n'a pas disparu n'importe où. Elle est disparue dans cet exil de la faim à travers le désert, jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Syrie, là où il y a eu un... génocide, mais aussi beaucoup de morts d'épuisement, de famine. Ça a été l'horreur absolue. Et elle n'a jamais eu de nouvelles. La seule rescapée, c'était sa grand-mère. Non pas sa mère, mais sa grand-mère, qui les a accompagnés à Paris, oui. Qui logeait donc dans le petit logement voilà. De la rue Monsieur le Prince.
J'ai zappé les grands-parents, parce que c'était des personnages qu'il fallait faire rentrer.
C'est assez compliqué, les histoires de patronyme.
Mais tout ça dormait dans la même pièce, dans ce fameux studio de la rue Monsieur le Prince. Le nom. Alors, j'entends déjà des auditeurs qui, sans doute, ont dit, il dit Aznavourian. Il oublie de dire Vourian. Ouais. Mais en fait, c'était Aznavourian.
Alors là, je crois que ça n'avait jamais été dit ni découvert. Moi, j'ai demandé tout bêtement l'extrait d'acte de naissance à la mairie et j'ai trouvé Aznavourian sans V.
Est-ce que c'est une erreur ?
C'est possible, tout est possible. Mais sauf que ça a été reproduit après tout le temps. Par exemple, l'inscription de Charles et de sa sœur Aïda à l'école des enfants du spectacle dont vous parliez.
Ouais.
Alors j'ai retrouvé ça, c'est assez très émouvant. C'est écrit à la plume, évidemment, et c'est écrit Aznavourian. Et la mère de Charles, en plus, son nom de jeune fille.
On ne sait pas quel est son nom, la mère de Charles.
Lui, il a toujours dit Bagdasarian.
Oui.
Et là, partout, je trouve du Papazian. Donc, pourquoi ? Je n'ai pas l'explication. Lui-même, peut-être, ne le sait pas. Mmh. Et en plus, les parents sont notés comme de nationalité russe à l'école.
Ouais.
École où il y a toutes les nationalités, il y a beaucoup d'enfants italiens, russes, d'Europe de l'Est. Il y a très, très peu de Français dans cette...
Alors, donc lui, cette histoire de prénom, d'ailleurs, ses parents le baptisent Chanour. qui est un prénom arménien.
Ils avaient l'intention, mais
en fait, on leur a dit que c'était pas possible.
Je pense. Alors c'est comme ça qu'ils le racontent. Ça.
C'était déjà Zemmour. Ils ont francisé le nom dès le début. Ils ont dit ça sera Charles.
À la mairie où la naissance a été déclarée, c'est souvent le cas, c'est des gens de la clinique qui s'en sont chargés.
Oui.
Alors lui dit, c'est mon père, il avait trop bu, il avait fait la fête pendant 3 jours, il est arrivé, il ne se rappelait plus du nom de sa femme. C'est pour ça qu'il a dit Papa Zian.
D'accord.
Bon, il explique ça, ça ne tient pas à la route du tout. D'abord parce que ce n'est pas le père qui est allé, c'est un employé de la clinique. Petite parenthèse, mais qui est d'une histoire folle, Louis-Ferdinand Céline...
Oui.
Est un des écrivains, c'était pas un très grand lecteur à Aznavour, mais il aimait quand même la littérature. Et c'était une de ses idoles avec Balzac, avec Victor Hugo, etc. Louis-Ferdinand Céline était en stage dans cette clinique 6 mois avant la naissance d'Aznavour.
D'accord.
Et au service
de gynécologie
de maternité. C'est-à-dire qu'à 6 mois près...
Il se faisait accoucher par Céline.
C'est dingue. Alors, je suis sûr qu'il le savait pas, ça.
Moi, ce que j'ai découvert avec surprise, c'est que c'est un enfant de la balle.
Ah, pur.
C'est-à-dire qu'il a été élevé dans l'atmosphère du spectacle, de la scène, du rideau qui s'ouvre, des couchers tard, des levées tard, etc. C'est très original, quand même, pour un enfant des années 20.
Oui, sans doute. Oui, il y en a beaucoup qui rêveraient de ça, parce que c'était la fête tout le temps. Le père quand même, il tenait un restaurant, et il a été serveur tenu un restaurant. Mais dans ce restaurant, il oubliait souvent de faire payer les copains.
Donc il a planté son affaire.
Ça buvait sec, sûrement la vodka coulait à flot. On chantait, on dansait. Il a vécu au milieu de ça. Forcément, ça l'a imprégné. Quand il chante Les Deux Guitares, qui est une adaptation du folklore arménien, c'est ça qu'on retrouve, l'ambiance des violons, des tziganes, de la folie, de la démesure.
Alors, on zappe quelques passages pour aller sur la tournée avec ce prieur, dont je n'ai trouvé aucune trace. J'aurais adoré vous faire entendre une chanson de prieur qui était un chanteur méridional, faisait le Tour de France. Ouais. Mais il fait une tournée avec lui, il a 11-12 ans.
Oui, c'est ça. Il y a plein d'autres gosses. Il y a sa sœur et puis il y a plein d'autres gosses. Il y en a un qui imite Maurice Chevalier. Alors que Charles aurait bien aimé avoir ce rôle-là.
Mais c'est le chouchou de prieur.
C'est le chouchou qui fait Maurice Chevalier. Alors lui, il fait...
Charlie Chaplin,
et puis...
Je me souviens plus.
C'est des stars de l'époque, mais qui aujourd'hui sont tombés d'un truc.
Et ses parents sont sacrément décontractés quand même.
Parce que
c'est un enfant.
Il les laisse partir. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur des malfrats, parce que c'est ce prieur. C'est un petit côté Dickens. Il est avec des gosses qui travaillent, qui font des marionnettes, qui rangent les trucs, qui envoient les petits formats par courrier, qui font le ménage. C'est un côté un peu exploitation. Bon. Mais semble-t-il, c'était des braves gens. Et il semble que ça se soit bien passé.
Il allait en vacances chez ses prieurs.
Et oui, ils sont allés dans le Midi, ce qui était inespéré, parce que Aznavour, sinon, il était condamné à vivre dans les rues de Paris, quoi, où il se sentait très bien. C'était un vrai titi. Hein.
Je voudrais qu'on parle de la guerre. J'ai eu ce sentiment, quand même, à vous lire et à réécrire ce passage-là, que Aznavour n'avait pas été une minute traumatisé par la guerre, qu'il avait vécu ça dans une forme d'insouciance absolument incroyable.
Ben, il était très jeune, il avait 16, 17 ans, 18 ans, donc c'est quand même les plus belles années. Il pensait à faire la fête, il pensait à son métier, et puis c'était un débrouillard, je dirais même un démerdard, c'est quand même assez fort ce qu'il a fait. Il a fait du marché noir avec les Allemands, c'est-à-dire qu'il allait vendre des tablettes, des bas bidons, des parfums à la manque aux soldats allemands, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais.
Parce que tout était bon pour lui, c'était un petit gars... à la fois timide et très, très culotté, et qui n'avait pas froid aux yeux, donc il faisait des coups comme ça pour ramener un peu des sous à ses parents. Moi, je crois un ado très sympa.
C'était pour ramener des sous à ses parents, c'est qui est important de dire, parce qu'il le dit à plusieurs reprises. Je gardais rien, je donnais tout à ma mère.
Oui,
et d'ailleurs, avec sa sœur, il n'avait de cesse.
Il avait un très bon
fond,
comme on dirait. Ouais. C'est ça, et c'était un brave gamin.
Alors, ses parents ont-ils été résistants? Est-ce que c'est parce que lui a entretenu ce mythe-là? J'ai lu dans votre livre que vous aviez des doutes, notamment sur la proximité qu'ils avaient avec Missak Manouchian, qui était ce résistant communiste.
Non, ils le connaissaient bien, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas été collaborateurs, et qu'ils ont plutôt été du côté de la résistance. Jusqu'où Missak Manouchian, ils le connaissaient bien, oui, mais ils ne l'ont jamais hébergé, hein. Enfin, d'après ce que j'ai pu recouper.
Cette histoire qu'ils allaient enlever leurs uniformes de la Wehrmacht chez eux, et puis
ça,
que c'est,
je sais pas.
C'est Charles qui allait jeter
moi,
les uniformes.
Moi, j'ai tendance à penser que ça a pu se produire, ça s'est sûrement produit, parce qu'à ce moment-là, le père travaille comme serveur dans un nouveau restaurant arménien où viennent beaucoup, beaucoup de militaires. Alors qu'il est convaincu ou accepté de dépanner certains qui voulaient déserter, de dire bon bah ce soir on se retrouve et on planque ton uniforme, je pense que c'est vrai, je pense pas qu'il l'inventait. Cela dit, c'est devenu maintenant un truc industriel. J'ai entendu dans un portrait télévisé qui est encore repassé ces jours-ci, le domicile des Aznavour, des Aznavourians donc, est devenu la plaque tournante de la résistance. Bon, c'est énorme quand même, faut pas exagérer. Moi, je suis allé rue Navarin voir l'immeuble et l'appartement, la configuration. Non, ils ont dû donner des coups de main, ce qui est formidable déjà. Ils ont hébergé chez eux Méliné, qui était la compagne de Manoukian. Et comme vous savez, Manoukian a été fusillé. Ça a donné lieu à un sublime poème d'Aragon, l'affiche rouge. Donc, ils étaient très proches de ça. Maintenant que sa mère a été portée des armes pour certains attentats qui, d'ailleurs, ne correspondent pas au recoupement que j'ai pu faire. Bon, je crois qu'il a rajouté un peu. Vous disiez pas traumatisé.
Il le dit non, pas, parce en que... tout cas.
Oui, c'est ça.
Avec du recul, ça n'a pas laissé
de trace. Il faisait la brinque sans arrêt avec Pierre Roche, qui était un peu plus âgé que lui, qui était un coureur, un fêtard incroyable.
La vérité, c'est qu'Aznavour jouait du piano très mal.
Oui.
Et que donc Pierre Roche lui enlève une épine du pied. Lui, il sait jouer.
Bien sûr. Ils font un duo de hasard, d'ailleurs. Hein. Ils se retrouvent un jour dans un petit gala de banlieue. Et il y a la présentatrice qui se trompe. Elle annonce Pierre Roche et Aznavour, alors qu'ils devaient passer séparément. Bref, ils créent le truc, ça marche bien. Et ils sont faits pour s'entendre. Roche improvise tout ce qu'il veut au piano. Il est super doué. Il est très, très swing. Et comme vous le disiez, Aznavour, lui, il est accordéon, musette, java, tango. Il n'est pas du tout jazz, pas du tout jazzy.
Ah, il rencontre pas Pierre Roche. Il peut démarrer du mauvais pied en étant ringard.
Ah oui, absolument. Absolument. Là, c'était un...
Et il est à la page.
Et il est à la page. Et Pierre Roche, c'est un fêtard et c'est surtout un coureur invraisemblable. C'est un peu l'équivalent de Simenon, quoi. C'est-à-dire que c'est un coureur compulsif. Il a deux, trois filles en même temps tous les jours.
Est-ce qu'il a vraiment fait une tournée en province à vélo? Parce que ça aussi, vous avez l'air d'en douter. Ben là, c'est-à-dire qu'il serait allé à Saumur à vélo, à deux sur un vélo, l'un sur le canne, l'autre sur la selle.
Il ne faut quand même pas nous prendre pour des enfants, pour des canards sauvages. Là, ils poussent un peu loin. Je pense qu'ils ont dû faire des trucs en vélo. Mais à deux sur un vélo, qu'on réalise 150 ou 200 km, à deux sur un vélo, deux adultes avec deux valises en plus.
Oui, il y avait des porte-bagages à l'avant et à l'arrière.
Il ne faut pas exagérer. Non, je pense qu'ils avaient un vieux vélo ou deux vieux vélos qu'ils ont dû faire quelques kilomètres. Et puis ça devient, là encore, on brode, on en rajoute. Et c'est rigolo. Et puis c'est pas grave, finalement.
Alors, sa rencontre avec Piaf après la guerre, un point peut-être sur lequel je ne me suis pas assez arrêté. Ils se sont entendus comme larrons en foire. Tout simplement.
C'est le gosse de la rue.
Dans l'après-concert.
Oui, bien sûr. Ils ont tous les deux cette culture de la rue. Piaf encore plus, évidemment. Piaf, c'est carrément le pavé, quoi. Ouais, ouais. Mais ils ont ça. Les bals popus, la valse à l'envers. Et tous les deux d'un peu des grandes gueules. Tous les deux des accents, un culot, une façon de parler un peu argotique et tout. Ils sont faits pour s'entendre. Et ils s'entendent merveilleusement. Et là, ça change la vie d'Aznavour. Même si... par la suite, on va voir que Piaf n'a pas fait Aznavour du tout. Elle a fait Montand, elle a fait Les Compagnons de la Chanson, elle a fait Eddy Constantine et pas mal d'autres.
Mais pas Aznavour.
Mais pas Aznavour. Aznavour, elle l'aimait bien, il était dans son sillage, il lui servait de chauffeur, d'éclairagiste, de sonorisateur, de secrétaire, de tout ce qu'on veut, de souffre-douleur, beaucoup. Elle l'emmerdait.
Il remplissait ses verres aussi.
Il faisait tout ça, mais lui... Il supportait ça, pas con, et il regardait Piaf tous les soirs faire son métier comme personne, et il a tout appris avec elle.
Dernière chose, Robert Belleret, on a une minute. Comment se fait-il que cet Aznavour si populaire, si gouailleur, si venu du pavé, à la fin de sa vie, ait pu sembler être distant, froid, voire antipathique? Je dis ça parce que je l'ai interviewé une dizaine de fois. C'était pas le Aznavour que je viens de raconter, du tout. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a reçu pas mal de coups. Il y a eu toute l'époque où la critique l'éreintait, donc ça, il a jamais pardonné parce qu'il était susceptible et rancunier. Moi, je l'ai connu, je l'ai rencontré dans des conditions où il était plutôt sympathique, mais il avait ses humeurs. Mais je crois qu'il y a ça, et puis il a eu des problèmes avec le fisc, il a eu des procès.
ça
a été saignant, ça quand même.
Le fisc.
Et puis il est parti en Suisse, et puis voilà. Et puis,
c'était donc le fisc, c'est pour ça qu'il n'était pas toujours sympa. Lisez cette très belle biographie de Robert Bellerey, Vie et légende de Charles Aznavour, aux éditions de l'Archipel.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.